Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié initialement en 1990, La cinquième discipline est un ouvrage majeur de management et de théorie des organisations. Peter Senge, professeur au MIT, y développe le modèle de organisation apprenante, une entreprise capable de renouveler durablement ses compétences, ses pratiques et sa compréhension de son environnement. Le livre ne propose pas une recette de transformation rapide. Il examine plutôt les mécanismes collectifs qui empêchent les organisations de tirer les leçons de leur expérience, notamment le cloisonnement des fonctions, la recherche de responsables individuels et la préférence pour les remèdes immédiats. Son cadre repose sur 5 disciplines complémentaires: pensée systémique, maîtrise personnelle, modèles mentaux, vision partagée et apprentissage en équipe. La pensée systémique constitue le principe intégrateur de cet ensemble. Elle invite les dirigeants et les équipes à observer les relations de cause à effet, les délais et les boucles de rétroaction plutôt que les seuls événements visibles. Le propos associe réflexion conceptuelle, schémas explicatifs et exemples organisationnels. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la pensée systémique révèle les structures derrière les problèmes visibles. La pensée systémique est la cinquième discipline car elle relie les 4 autres et donne une cohérence au projet de organisation apprenante. Senge critique une habitude de gestion très répandue: isoler un incident, désigner une cause immédiate, puis appliquer une correction locale. Cette logique semble efficace car elle produit une réponse rapide, mais elle ignore souvent les relations entre les décisions, les comportements et les résultats différés. Une baisse de qualité, par exemple, peut provenir de pression commerciale, de délais de production, de réduction des moyens de maintenance et de réaction défensive entre services. Chercher un seul responsable masque cette structure. La démarche systémique consiste à représenter les interactions sous forme de boucles. Certaines boucles amplifient un mouvement, comme une amélioration de réputation qui favorise les ventes et apporte davantage de ressources. Des autres régulent un phénomène, parfois avec retard. Ces délais expliquent pourquoi une équipe peut intensifier une action utile à court terme, jusqu'à produire un effet inverse. Les archétypes systémiques présentés par Senge, tels que les limites de la croissance ou le déplacement du fardeau, servent précisément à reconnaître des configurations récurrentes. Leur intérêt est diagnostique, ils aident à déplacer le regard des symptômes vers les conditions qui entretiennent le problème et vers les points où une intervention limitée peut avoir un effet durable. Deuxièmement, la maîtrise personnelle transforme le développement individuel en capacité collective. La maîtrise personnelle ne désigne ni le contrôle des autres, ni une simple accumulation de compétences. Chez Senge, elle correspond à une pratique continue par laquelle une personne clarifie ce qui compte réellement pour elle, observe plus lucidement sa situation et apprend à agir dans la tension entre vision et réalité. Cette tension est créatrice lorsqu'elle conduit à apprendre, à expérimenter et à ajuster ses choix. Elle devient stérile lorsque la vision est abaissée pour éviter le constat des difficultés ou lorsque la réalité est niée. Cette discipline a une portée organisationnelle directe. Une entreprise ne devient pas apprenante uniquement en installant des outils, des indicateurs ou des procédures de partage des connaissances. Elle dépend aussi de personnes capables de formuler leurs aspirations, de reconnaître leurs limites et de rester engagées face aux écarts entre intention et résultat. Senge refuse ainsi une vision purement instrumentale du salarié. Les dirigeants doivent créer des conditions dans lesquelles le développement des personnes soutient les finalités collectives, sans transformer les ambitions individuelles en simples moyens de conformité. La maîtrise personnelle demande également de comprendre que les perceptions et les actions influencent le contexte auquel elles répondent. Elles préparent donc la pensée systémique. Mieux une personne distingue ses objectifs, ses réactions et ses hypothèses, mieux elle peut contribuer à un apprentissage qui dépasse la défense de son périmètre immédiat. Troisièmement, les modèles mentaux doivent être rendus discutables pour corriger les routines. Les modèles mentaux sont les images, hypothèses et généralisations qui orientent la manière de comprendre une situation et de prendre une décision. Ils ne sont pas nécessairement erronés. Ils deviennent problématiques quand ils restent implicites, car une organisation peut alors défendre des pratiques devenues inefficaces sans examiner les prémices qui les soutiennent. Une équipe peut ainsi attribuer systématiquement un échec au marché, à un autre service ou à une insuffisance individuelle, alors que ses propres règles de décision contribuent au résultat. Senge insiste sur une compétence rarement traitée, comme une discipline managériale exposer son raisonnement, distinguer les faits observables des interprétations et accepter que ces certitudes soient des hypothèses révisables. Cette ouverture ne signifie pas que toutes les opinions se valent. Elle permet plutôt de soumettre les raisonnements à une enquête collective. Les responsables ont un rôle particulier, car leurs présupposés peuvent devenir des normes silencieuses que les collaborateurs hésitent à questionner le travail sur les modèles mentaux complète la pensée systémique. Une carte de boucle causale ne produit aucun changement si les participants refusent de réviser les croyances qui déterminent leurs actions. En rendant visibles les raisonnements défensifs et les généralisations hâtives, une organisation peut apprendre de ses erreurs au lieu de seulement améliorer la justification de ses décisions passées. Cette discipline fait donc de la qualité de la conversation un enjeu central de la performance durable. Quatrièmement, la vision partagée remplace la conformité par un engagement envers un avenir commun. La vision partagée ne se réduit pas à une formule institutionnelle affichée dans une présentation ou à un objectif fixé par la direction. Pour Senge, elle apparaît lorsque des personnes relient leurs aspirations à une image commune du futur qu'elles souhaitent contribuer à faire exister. La distinction est importante, la conformité obtient un comportement attendu, tandis que l'engagement mobilise initiative, persévérance et capacité de jugement lorsque les consignes ne suffisent plus. Une vision imposée peut organiser les priorités à court terme, mais elle produit rarement un apprentissage profond. Les salariés risquent alors de traiter le changement comme une campagne supplémentaire, séparée de leur travail réel. Une vision véritablement partagée se construit par des échanges où les différentes attentes peuvent être exprimées et reliées. Elle ne suppose pas une uniformité totale. Elle donne un horizon assez intelligible pour que les divergences puissent être arbitrées au regard de finalités communes plutôt que par la seule compétition entre intérêts locaux. Cette discipline répond aussi au problème du cloisonnement. Quand chaque fonction optimise ses propres indicateurs, le système global peut se dégrader. Une vision commune aide les équipes à considérer les conséquences de leurs décisions sur les autres parties de l'organisation. Elle doit cependant être accompagnée de pratiques cohérentes, possibilité de signaler les problèmes, accès à une information pertinente et droit de réviser les méthodes. Sans ces conditions, la vision reste déclarative et ne devient pas une force de coordination. En dernier lieu, le dialogue et apprentissage en équipe produisent une intelligence qui dépasse les individus. Senge considère les équipes comme les unités fondamentales de l'apprentissage dans les organisations modernes. Il ne suffit pas de réunir des personnes compétentes pour obtenir une intelligence collective. Les groupes peuvent au contraire produire des compromis superficiels, dissimuler les désaccords importants ou répéter des mécanismes de protection qui empêchent chacun de signaler les difficultés. Le défi consiste à développer une capacité commune à penser, pas seulement à répartir les tâches. Le livre distingue le dialogue de la discussion ordinaire. Dans une discussion, les participants cherchent souvent à défendre, comparer ou faire triompher leur position. Le dialogue vise à examiner ensemble les présupposés, les perceptions et les tensions qui organisent ces positions. Il exige de suspendre provisoirement le besoin de conclure, d'écouter les raisonnements divergents et de rendre visibles les réactions défensives. Cette pratique ne supprime pas la nécessité de décider. Elle améliore la qualité des décisions en élargissant ce que le groupe est capable de voir avant de choisir. L'apprentissage en équipe relie directement les autres disciplines. La maîtrise personnelle soutient une écoute moins défensive. Les modèles mentaux deviennent discutables. La vision partagée fournit une direction et la pensée systémique aide à analyser les interdépendances. Senge montre ainsi que les outils analytiques seuls ne suffisent pas. La transformation dépend de pratiques conversationnelles régulières permettant aux équipes de retenir, interpréter et utiliser leur expérience. En conclusion, la cinquième discipline convient surtout aux dirigeants, cadres, responsables de transformation, consultants, responsables de projets et membres de collectifs confrontés à des problèmes récurrents qui résistent aux solutions habituelles. Le livre sera également utile aux personnes qui souhaitent comprendre pourquoi des organisations composées de professionnels compétents peuvent échouer à apprendre de leurs résultats. Son apport pratique est moins celui d'un manuel immédiatement applicable que celui d'un cadre de diagnostic. Il fournit un vocabulaire pour identifier les boucles de rétroaction, les délais, les réponses symptomatiques, les croyances non examinées et les formes de coopération qui limitent la capacité de changement. Ce qui distingue Senge de nombreux ouvrages de management est son refus de séparer la stratégie, la culture, les comportements individuels et la dynamique collective. Les cinq disciplines ne sont pas présentées comme cinq initiatives indépendantes, mais comme un système de pratiques qui se renforcent ou se neutralisent mutuellement. Cette ambition explique la richesse durable du livre, mais aussi sa difficulté. Les concepts demandent du temps, de la discussion et une mise en relation avec des situations concrètes. Certains lecteurs pourront trouver les exemples inégaux ou souhaiter davantage de modes opératoires détaillés. Malgré cette limite, l'ouvrage reste une référence parce qu'il déplace la question du changement. Au lieu de demander comment imposer une solution, il demande comment une organisation peut améliorer sa faculté collective à percevoir la complexité, à questionner ses habitudes et à créer des réponses plus durables. Si vous souhaitez soutenir Peter Tsenge, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.